Si vous écoutez l'émission que Québec se lève là de manière plus ou moins régulière depuis une couple de mois, une couple d'années, vous connaissez mon intérêt soutenu, presque maladif, pour les nouvelles insolites, les nouvelles techno, les nouvelles parfois ridicules aussi, qui font rigoler. Et je pense qu'on a trouvé le grand Manitou des nouvelles insolites, techno, un peu inusitées.
C'est comme le gars qui trouve plein d'affaires partout. Puis qu'il nous rappe ça.
C'est ça, parce qu'il signe la rubrique « 10 choses à savoir » dans le journal Les Affaires.
Ouais.
Il s'agit d'Alain McKenna qu'on rejoint au téléphone tout de suite. Bonjour Alain.
Salut, ça va bien?
Oui, très bien, toi-même.
Oui, merci.
Je veux qu'on je voulais savoir qu'est-ce que ça pourrait donner si on passait à travers la rubrique « 10 choses à savoir » que je manque vraiment pas souvent, mais version radio.
Excuse-moi, ça ne donnerait pas 10 choses parce que ça serait long.
Ça serait trop long, t'as raison.
Mais on peut se faire un best-of, ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on en a préparé quelques-unes ce matin.
Avant ça, par exemple, j'aimerais savoir, as-tu le même intérêt maladif que moi pour ces nouvelles-là insolites? Ça part d'où cette idée-là d'essayer de trouver toutes les nouvelles un petit peu ridicules pour en faire un pot pourri?
Ben, c'est parti. Tu sais, le journal Les Affaires, finalement, c'est le journal financier. Puis, tous les matins, on prépare l'actualité boursière. C'est surtout ça qui démarre la journée, là, dans l'actualité financière. Puis, évidemment, autour de ça, bon, il y a de l'actualité, il y a de la nouvelle, tout ça. Mais il y a toujours des petits morceaux, des petits éléments, là, d'actualité qui méritent d'être mentionnés, mais méritent pas nécessairement une place à part entière dans l'actualité. Donc, on les accumule, puis on en fait une espèce de best-of quotidien. Puis oui, ben, on essaie aussi de trouver des trucs un peu plus, ridicule, mais un peu plus inusité, disons, qu'on trouve tous les jours là, sur Internet.
D'ailleurs, le premier du lot me laisse croire que les Américains devraient peut-être prendre l'habitude d'enlever un petit carré ou deux de papier toilette quand ils font leurs besoins.
Ben, on a fait, en tout cas, il y a deux organismes américains, Natural Resources Defense Council et un organisme qui s'appelle Stand Earth, donc je me tiens debout pour la Terre, qui ont fait le lien, l'adéquation en fait entre pourquoi on prend les arbres dans la forêt canadienne et à quoi ça sert et où ça s'en va et qui finalement les consomme. Ouais. On a découvert que c'était ça, c'est les Américains qui achètent du papier de toilette de luxe en trop grand nombre, mais c'est ça qui provoque c'est là où se trouve la grosse demande pour les pâtes de papier canadiennes. Là, on pensait aussi au papier journal, entre autres, mais c'est plus négligeable.
J'aurais pensé papier journal ou papier d'imprimante, machin, mais papier de toilette de luxe. Ouais.
Ben on produit pas le bois nécessaire pour faire du papier blanchi, papier genre papier très blanc là, okay, de qualité pour des livres, des choses comme ça. On fait beaucoup de pâtes pour du papier journal, la pulpe, tout ça. Et là, on voit, c'est ça, ça sert pour faire du papier de toilette. Et c'est le fameux papier, tu sais, il y a des rouleaux, là, quand on voit les annonces à la télé, là, qui est espèce de spongieux un peu, là, on dirait que c'est quasiment pas du papier, là. Bon, ben voilà, c'est là où ça se trouve. Nous, on a au Québec Cascade, il fait beaucoup de papier recyclé, donc ça, à ce niveau-là, on en consomme moins chez nous, mais pourtant, on le produit, donc c'est si jamais vous cherchez à pointer le doigt, là, pour savoir pourquoi les forêts...
Faudrait laisser faire le carré de soie avec lequel on s'essuie le postérieur.
Ouais, c'est ça, laissez faire les éponges pour s'essuyer.
Exactement.
Alain, on parle souvent de cybersécurité ici à l'émission, et il semblerait que... il n'y a pas juste des questions là, de cybersécurité puis de métadonnées de patentes. Il semblerait que Facebook fait littéralement chanter Ottawa.
Oui. Ottawa n'est pas la seule... en fait, Ottawa, dans le sens de la capitale, le gouvernement canadien.
Oui.
Et c'est pas le seul cas dans ce genre-là. Facebook, c'est pas nécessairement le réseau si joli et inoffensif qu'on penserait. Là, des dernières semaines, on a vu beaucoup là d'exemples de situations où Facebook est vraiment dans le tort en termes de gestion des données privées. Et ça mène évidemment le gouvernement un peu partout à vouloir créer des lois pour encadrer l'utilisation des données privées des gens, surtout dans le numérique où c'est devenu de plus en plus un problème, une question de vie privée, même de sécurité. Là. Et ce qu'on a compris dans une publication de notes récupérée par un quotidien informatique, le Computer, en fait, pas un quotidien hebdomadaire, le Computer Weekly, c'est que Sheryl Sandberg, qui est la VP de Facebook, aurait eu des conversations avec notamment le gouvernement canadien du genre... Écoute, on veut installer un centre de données chez vous, ça va créer des emplois, ça va être bon pour l'économie, c'est bon politiquement d'arriver puis de dire que vous avez un centre de données Facebook chez vous, à condition que vous ne votiez pas de projet de loi pour encadrer la gestion des données. Donc, c'est un peu la promesse qui a été faite. Puis après ça, le gouvernement a dit non, ben nous, les données, ça commence à être important. Puis on a dit non, ben désolé, si vous faites ça, nous, pas de centre de données chez vous. Donc, c'est une espèce de c'est pas des menaces, mais vraiment de chantage lié à la création d'emplois.
Ouais, c'est ça. Donc si vous passez des lois qui pourraient nous nuire, pas de job, pas de bons travailleurs qui vont payer de beaux impôts. Ouais,
exactement. C'est un peu classique hein, comme formule pareil.
Ouais, c'est ça. Ça serait pas la première fois qu'on voit ça. Alain, je veux aussi absolument te parler de cette nouvelle ça se passe à Toronto. Et écoute, j'en revenais pas là, tout de suite vous allez avoir l'image dans la tête. Google a mis au point un imperméable pour les immeubles. Vous avez bien compris, un imperméable pour les buildings. Explique-moi ça.
Ben écoute, ça sonne bizarrement, mais essentiellement, là, c'est un abri tempo chauffé qui est amovible. Puis c'est ça qui est un peu banal, c'est pas banal en fait, ce qui est, je veux dire, cocasse ou absurde, c'est que c'est Toronto, il y a peut-être un an à peu près, ils ont obtenu le mandat là de, ils ont donné à Google en fait le mandat de créer une espèce de quartier du futur dans l'est de la ville. Puis la compagnie qui fait ça, c'est une filiale de Google qui s'appelle Sidewalk Labs. Et ils cherchent plein de solutions pour créer ce qu'ils appellent la ville intelligente. Là. C'est vraiment un buzzword dans lequel on trouve un paquet d'affaires.
Okay.
Puis une de ces choses-là, c'est d'assurer la mobilité et le fait qu'on puisse sortir dehors un peu plus souvent, puis qu'on reste pas enfermé dans les bâtiments, tout ça, et même l'hiver. Donc, ils ont eu l'idée géniale de créer ces espèces de... Si vous regardez sur Google, là, sur le site de Sidewalk Lab, vous allez voir, il y a une espèce de vidéo de ça. C'est littéralement un abri tempo, mais qui est articulé, donc qui s'enlève automatiquement quand il n'y a pas nécessaire, mais tu sais, Toronto, il fait pas aussi froid qu'ici, donc l'hiver, juste un espèce de petit abri comme ça, un chauffage minimaliste, ils pensent que ça peut sauver des coûts du côté du chauffage des bâtiments et que ça peut aider justement les gens à sortir dehors. On parlait, ça a été discuté à Montréal, il y a un petit bout de temps, c'est des trottoirs chauffants pour certaines artères commerciales, tout
ça.
C'est un peu le prolongement logique de ça, en disant, ben, si on recouvrait, tu sais, on va recréer la Plaza Saint-Hubert à Toronto. Et on pourrait permettre aux gens de sortir dehors même l'hiver.
Mais Alain, un imperméable pour immeuble, tu sais, si on n'a pas l'ordi devant nous, ça ressemble à quoi? C'est un auvent qu'on met sur l'immeuble, avec au-dessus des gratte-ciels ou juste à la sortie qui se rend à tous les autres immeubles qui sont prêts?
Non, c'est à hauteur, c'est pas très haut, ça va jusqu'à, parce que c'est pas des grands immeubles, des immeubles à deux étages, là, donc ça part un peu plus haut que le premier étage, puis ça descend, c'est une grande toile, le Sidewalk Lab, la compagnie qui l'a développé, vante la qualité particulièrement efficace de son tissu pour couper le froid, donc c'est disons que c'est un abri tempo de luxe.
Non, non, c'est comme une espèce de jupe pour building.
Oui, exactement.
En tout cas, on va être blanc, pas à peu près avec ces genres de choses-là, par exemple, il y a pas bien place à vitamine C, là.
C'est sûr que pour un accès au soleil, c'est pas la meilleure affaire.
En terminant, Alain, j'ai beaucoup aimé cette idée-là, cette idée d'un jardin entier à l'épicerie.
Oui, ben ça s'en vient. Écoute, de plein de façons, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Juste Télé, et contrairement à ce que son nom peut laisser entendre, ils font des trucs par rapport à ça, où ils aident certains épiciers, je pense que c'est la chaîne IGA, à avoir un jardin sur le toit et à récupérer certains légumes. Puis c'est vraiment extrêmement naissant chez nous. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de startups, dont une qui a été créée par le petit frère d'Elon Musk, là, qui est le PDG de Tesla. Son frère s'appelle Kimball Musk. Il a créé une compagnie qui s'appelle Square Roots, c'est un jeu de mots, là, racine carrée, qui essentiellement plante des légumes dans des petits jardins qui sont dans des gros conteneurs industriels. Et ces conteneurs-là peuvent être installés n'importe où. Puis c'est vraiment une façon de faire pousser des légumes en ville, essentiellement dans des endroits où c'est pas nécessairement facile de le faire. Puis après, la logique derrière ça, c'est de dire, ben, on peut installer désormais des conteneurs dans des stationnements à côté des épiceries, et là, les épiciers automatiquement pourraient fournir des légumes frais à leurs clients. Ils ont beaucoup de millions de dollars de financement privé dans les poches, le Square Roots. Ils sont pas les seuls aux États-Unis à faire ça, mais ils ont la volonté. Cette année, ils ont commencé déjà dans la grosse pomme, la ville de New York, avec des dizaines de conteneurs là à mettre en application leur modèle. Puis ils ont la volonté d'être vraiment là le Tesla de l'alimentation, parce qu'ils veulent vraiment révolutionner la façon dont on vend des légumes. Fait genre de voir si ça va se rendre jusqu'à chez nous.
Le Tesla de l'épicerie, c'est bien passé quand même. J'aime bien le concept. Merci Alain Mécana pour ton temps aujourd'hui.
Hey, fait plaisir, bonne journée.
OK, salut, bye, on mettra ça. Alain Mécana est journaliste pour le journal Les Affaires et signe la rubrique 10 choses à savoir en v'là 3-4.
Oui, puis manquez pas ça, c'est vraiment bon.
Ah oui, moi j'adore ça, cette rubrique-là. Parce que c'est quoi, pour les gens qui... Non, mais tu sais, pour les gens qui consommons un peu trop de journaux comme nous autres, là... C'est carrément lire le journal, mais la switch à off.
Exact. T'sais. Oui, c'est
parce
ça.
Parce que c'est intéressant, c'est pas, c'est loin d'être niaiseux. Mais c'est des nouvelles qu'on trouvera pas nécessairement ailleurs, là.
Ouais. Puis il nous casse pas la tête. Il réduit ça à sa plus simple expression. Il vulgarise. Puis voilà, on a compris.
Alors, j'étudie, c'était qui? Alain Mécana, journaliste pour le journal Les Affaires.
Qui? Alain Mécana? Okay.
Je me souvenais pas si je l'avais dit. C'est le temps qu'on s'arrête pour une pause. Vraisemblablement, vous constatez que mon cerveau s'en vient liquide comme un potage. Ça fait qu'on revient.